14 juin. J'ai pris le seul parti qui puisse m'empêcher de tomber aussi bas, à mes propres yeux, que les malheureuses à qui la folie des sens enlève toute dignité, tout respect d'elles-mêmes. Je ferme maintenant, chaque soir, à double tour, la porte qui met en communication la chambre de Jacques avec la mienne. Cette nuit, je l'ai entendu rentrer vers 1 heure, aller et venir, ouvrir sa fenêtre, sans doute pour fumer une cigarette. Mon cœur battait car il ne se couchait pas et j'avais peur. Il a refermé sa fenêtre, s'est approché de ma porte, a essayé de l'ouvrir. Comme elle résistait, il a dit à voix basse et impérieuse « Louise ! Louise ! Qu'y a-t-il » ai-je répondu. « Pourquoi cette porte est-elle fermée ? Ouvrez ! Qu'avez-vous à me dire ?»« Mais bonsoir, apparemment !» J'entendais le bouton grincer entre ses doigts, le bois crier sous la pesée de son corps. Je sautai à bas de mon lit et, collant presque mes lèvres sur la porte, je lui criai « Jamais !» Alors, un craquement retentit, la serrure arrachée céda et il parut tout pâle. Sans doute, l'obstacle avait encore irrité son désir, car il avait ce frémissement des narines, ce froncement des sourcils, qui le fait, à ces moments-là, ressembler à une bête affamée. Il fit un pas vers moi, déjà il tendait les mains. Je compris que s'il m'effleurait seulement, j'étais perdu, perdu comme l'autre soir, perdu à jamais. Je me reculai brusquement, je saisis sur la table un petit stylet corse, à poignée incrustée de nacre, dont je me sers comme de coupe-papier, et je lui dis, d'une voix et avec un regard où quelque chose de terrible a dû passer, « Si tu fais un pas de plus, si tu me touches, je te jure devant Dieu que je me tue. » Il s'est arrêté, m'a regardé avec une sorte de stupeur, comme s'il se trouvait en face d'une femme qu'il ne connaissait pas. Puis, il a haussé les épaules et regagné sa chambre, en refermant tant bien que mal la porte derrière lui. Je me suis habillée et j'ai passé le reste de la nuit dans un fauteuil, car il me semblait à tout moment que j'allais le voir reparaître l'œil enflammé. Et j'avais été sincère en lui jurant que je me frapperais avec ce poignard plutôt que de me prostituer à son brutal désir. Je viens de me faire installer une chambre dans une autre partie de l'hôtel sous prétexte de convertir la mienne en cabinet de travail à son usage. Enfin, je n'ai donc pas été lâche et je l'ai dompté à mon tour. 15 juin. Aujourd'hui, je recevais et j'avais quelques personnes au salon. Mon amie Germaine se répandait, comme d'habitude, en indiscrète doléance sur le compte de son mari. J'éprouvais une sorte de dégoût à la voir étaler ainsi aux yeux d'indifférents, sans que nul ne l'y forçât, l'indignité de l'homme qu'elle a choisi librement pour époux et dont elle porte le nom. Je me disais, quelle honte, ce n'est pas moi qui mettrais ainsi le doigt sur les plaies vives de mon ménage. Que dans le secret de ma conscience, je juge avec sévérité celui qui m'a trahi, soit. Mais dire un seul mot contre lui, dévoiler sans pudeur mes souffrances, solliciter d'autrui une banale ou hypocrite compassion, jamais, jamais. Vers 6 heures, il ne restait plus que cet ancien diplomate qui trouve, paraît-il, de temps en temps, malgré son âge, quelque menu profit à jouer auprès des femmes délaissées le rôle de consolateur et de vieil ami. Ce céladon de 70 ans s'occupe beaucoup de moi depuis quelque temps, et cet empressement ne me plaît guère. Il commença, dès que nous fûmes seuls, à me faire entendre qu'il me savait malheureuse, qu'il me plaignait de tout son cœur, etc. Je le laissai aller un peu, puis je lui dis tout à coup « Savez-vous quelle différence il y a entre mon ami qui était là tout à l'heure et moi, monsieur ?»« Laquelle, belle dame ?» dit le vieux galantin, avec son plus gracieux sourire. Je le regardai dans le blanc des yeux et, me levant, je lui jetai fièrement ces mots à la face. « C'est que M. Dorcel est le meilleur des maris, monsieur, et que je l'adore. » 18 juin. Je ne sais ce qu'a Jacques depuis 2 jours. Je lui trouve mauvaise mine. Il a perdu son bel appétit et se plaint de douleurs de tête. Je crains qu'il ne couve quelque chose. Cette nuit, je suis venu 10 fois sur la pointe des pieds écouter à sa porte. Son sommeil était agité. Il poussait de petits gémissements, prononçait en rêve des paroles incohérentes. Je n'ai pas pu résister. Je suis entré sans bruit. Il dormait, la face rouge et congestionnée. Je l'ai baisé au front, comme je baisais ma fille quand elle était petite et que je craignais de la réveiller. Et puis, je suis resté dans un fauteuil, près de son lit, à le regarder dormir, jusqu'au matin. Il a paru surpris de me trouver là quand il a ouvert les yeux. Je lui ai dit que je venais seulement d'entrer dans sa chambre, ayant voulu voir si le malaise dont il se plaignait la veille s'était dissipé avec le sommeil. Son pouls, qu'il m'a donné à tâter, m'a semblé trop rapide. J'ai envoyé chercher aussitôt le docteur, qui ne peut pas se prononcer et qui reviendra ce soir. En attendant, Jacques garde le lit. Il est très abattu, s'ennuie, se plaint. Je crois qu'il a un peu peur d'être malade, lui si brave. Comme ces hommes sont peu faits pour endurer la souffrance. Je me suis installée auprès de lui. Je lui tiens compagnie et je tâche à le distraire de mon mieux, ce qui n'est pas aisé. J'ai fait dresser une petite couchette de fer dans mon ancienne chambre, car je veux le veiller cette nuit. Depuis une heure, il dort. Quelle belle tête il a ! Ah, que n'est-elle moins belle ! Et s'il faut décidément qu'il soit malade, que naisse la petite vérole qui s'attaque à ce visage trop charmant, qui le marque de ses affreux stigmates. Défiguré, les autres ne l'aimeront plus, et je l'aimerai toujours, moi. Vraiment, je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je pense, je deviens folle. En ce moment même, l'idée seule de cette maladie qui peut-être le guette, qui peut-être va mettre sa vie en danger, devrait m'épouvanter. Et je ne songe qu'à une chose, c'est que, s'il tombait malade, je me dévouerais à lui, c'est que j'aurais la joie sublime de me faire la sœur de charité de mon bourreau, c'est que, sans doute, il me garderait, après, quand je l'aurais sauvé, quelque gratitude de mes soins, c'est que cette crise aurait pour effet de le rendre meilleur, plus aimant, plus fidèle, qui sait. 15 juillet. Dieu soit loué, Jacques est sauvé. Le médecin me l'a juré du moins. Mais quelles mortelles heures depuis que cette fièvre typhoïde s'est abattue sur lui. La convalescence est commencée. Toutefois, il faut encore beaucoup de soins, des précautions infinies. Depuis 27 jours et 27 nuits, je n'ai pas quitté son chevet. Je ne sais pas où je puise l'énergie physique nécessaire pour me tenir encore debout. Je me suis promis de ne prendre un peu de repos que lorsque je le verrai tout à fait sur pied. Je sens bien que je suis presque à bout. Le docteur ne cesse de me répéter qu'il faut me ménager si je ne veux pas tomber malade à mon tour. Plus tard, nous verrons. Maintenant, je demeure à mon poste. Il me semble qu'à rester ainsi près de Jacques, je lui donne de ma vie. Qu'importe que mes forces s'en aillent si les siennes reviennent. 25 juillet. Le docteur est content. Jacques va de mieux en mieux. Je le lève 4 heures par jour maintenant. Les premières fois, comme je ne souffre pas qu'un autre que moi le soigne, j'ai dû presque le porter jusqu'à son fauteuil, tant il était faible. Je ne me serais jamais crue si vigoureuse. Il est vrai que si je devais aller pour mon compte jusqu'au bout de la rue, je n'en serais pas capable. Je lui donne des viandes rôties, du bordeaux, du cognac très vieux. Il renaît à vue d'œil. Dans quelques jours, je pourrai l'emmener à Grandval, où il achèvera de se remettre. 27 juillet. Il faut que je m'occupe de lui comme d'un bébé, que je lui fasse sa toilette, que je l'habille, que je le déshabille. Je le peigne, je parfume sa barbe, car monsieur redevient coquet et me demande 10 fois par jour si cette maladie ne l'a pas enlaidie, si ses cheveux ne tombent pas et s'ils sont toujours aussi blonds. Il faut que je le surveille, aussi que je l'empêche de rester trop longtemps à l'air et surtout de manger comme un ogre. Apparemment, j'étais faite pour être garde-malade, car je trouve tout cela délicieux. Et ne voilà-t-il pas que moi, qui ai tant souhaité son rétablissement, je vois approcher avec une sorte de regret inavoué la fin de cette convalescence. Guéri, sera-t-il à moi tout entier, comme il l'est maintenant ? 24 août. Nous sommes à Grandval depuis 3 semaines bientôt. Blanche est venue nous y rejoindre et elle y passera les vacances. Pour la récompenser de son succès à l'examen, Je lui promis que je ne la remettrai pas l'hiver prochain au couvent, et j'ai écrit à Miss de revenir. Je ménage une surprise à ma fille. J'ai invité son cousin Pierre à venir chasser ici en septembre. Ah, s'il pouvait se plaire, et puis, dans un an ou deux, s'épouser et me donner de beaux petits-enfants, quel rêve! L'heure n'est-elle point venue pour moi d'être grand-mère? Hélas, je n'ai qu'à me regarder dans une glace pour me convaincre qu'il est inutile, désormais, de chercher à me rajeunir et que cette année-ci, en passant sur ma tête, y a laissé de terribles traces, comme les années de campagne dans les pays insalubres et torrides en laissent sur le front des soldats. 25 août. Du temps où je faisais la garde malade auprès de Jacques, une habitude m'est restée. Je l'appelle quelquefois, sans y songer, mon enfant. Quand je le voyais si faible, si dolent, pouvant à peine soulever une tasse de bouillon et réclamant mon aide pour la porter à ses lèvres, il me semblait tout naturel de l'appeler ainsi. Maintenant que sa robuste constitution a triomphé du mal, qu'il mange, boit, dort, marche, monte à cheval comme autrefois, je devrais renoncer à cette habitude. Elle est ridicule en somme. Et pourtant, non. Ce mot m'est doux à prononcer quand je le lui adresse. Qui sait s'il n'exprime pas, mieux que tout autre terme, un sentiment nouveau qui se serait insinué en moi sans que je m'en aperçusse même, tandis que je défendais Jacques contre la mort, comme j'ai fait autrefois pour Blanche quand elle a eu son angine. Je puis bien me rendre ce témoignage que la guérison de mon mari est en partie mon œuvre. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de le traiter un peu comme si je lui avais donné cette vie que, peut-être, il n'eût pas conservée sans moi? 26 août. Assurément, je n'ai fait que mon devoir en le soignant du mieux que j'ai pu. Mais pas un remerciement, pas une marque de gratitude ou d'affection, c'est un peu dur. Le seul salaire sur lequel je comptasse était que mon dévouement toucherait, attendrirait un peu ce cœur de pierre. J'étais donc trop ambitieuse. Maintenant qu'il va bien, je le retrouve tout entier tel qu'il était il y a 3 mois, absolument semblable à lui-même. La maladie a glissé sur lui comme une goutte d'eau sur la plume d'un oiseau. Jamais je ne l'ai vu plus resplendissant de force et de jeunesse, plus épanoui, plus insouciant. Allons, pauvre femme, résigne-toi, prends ton lot qui est de souffrir par cet homme, laisse-lui le sien qui est de donner pour aliment à sa joie de vivre la souffrance d'autrui. Sois généreuse, sois stoïque, prie pour lui, pardonne-lui, ne te plains pas. 27 août. Je me suis aperçue qu'il commençait à faire une cour très vive à cette petite blonde, notre voisine, laquelle ne paraît pas insensible aux hommages qu'il lui prodigue. La malheureuse, combien de temps le gardera-t-elle? Et comme elle souffrira quand, ayant tout sacrifié pour lui, elle le verra bientôt passer à une autre. J'ai quelquefois l'envie de dire à cette femme, « Prenez garde, je sais ce qu'il en coûte. » Je me sens pour elle, non de la haine, mais une immense pitié. Quant à lui, je l'excuse. J'en viens à croire qu'il n'est pas responsable, qu'il obéit à je ne sais quelle fatalité d'instinct si puissante que rien ne peut prévaloir contre elle. Il y a de même, dans la nature, des forces malfaisantes qu'on a le droit d'éviter, si l'on peut, non de maudire, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Qui m'eût dit que j'arriverai jamais à cette philosophie résignée? Mais hélas, que d'amertume, que de désespérance, que de douleur dans ce renoncement. 28 août. Il veut que nous recommencions à donner des fêtes. Sans doute pour avoir l'occasion de voir un peu plus souvent cette femme. Serait-elle déjà sa maîtresse? C'est bien possible. Il faudra donc que je la reçoive, que je lui fasse bon accueil et visage souriant. Pourquoi pas, mon Dieu? Le Christ a bien bu le calice jusqu'à la lie. Qu'elle vienne, la pauvre femme, qu'elle me regarde, qu'elle voie ce que cet homme fait de celle sur qui son cruel caprice s'est posé. Et s'il en est temps encore, que le spectacle de la créature lamentable, usée, brisée que je suis, la sauve, elle. 29 août. Je suis contente de moi. Non de mon corps, que je sens miné par je ne sais quel mal qui me travaille sourdement et sans trêve, mais de mon âme. Toutes ces épreuves qu'elle a traversées ont été pour elle quelque chose comme un filtre où elle s'est clarifiée. Je ne sens plus en moi que bonté, charité, résignation, amour. Et cet amour n'est plus la flamme impure qui me consumait jadis jusqu'aux os. C'est un grand feu doux, toujours égal, qui se répand en chaleur et en lumière sur toutes choses et sur tous êtres. J'ai recommencé les lectures pieuses que j'avais eu le tort d'interrompre. J'ai longuement médité sur ces mots que Pascal fait dire par le Sauveur dans le mystère de Jésus. « Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ils ne souffriraient pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourraient pas pour toi, dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire. Je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. » Oh, les belles, les admirables paroles! Je les ai apprises par cœur. Je me les récite souvent, comme une prière, et il me semble que ce n'est plus Jésus qui s'adresse aux pécheurs, mais que c'est moi-même qui parle à mon mari. Oui, les rides qui maintenant déshonorent ce visage, dont j'eus la faiblesse d'être fière, ces rides sont le sillon tracé par les larmes que tu as fait verser à mes yeux. Les cheveux gris qui se mêlent, de plus en plus nombreux, à cette chevelure dont on vantait la beauté, c'est dans une des nuits d'agonie que tu m'as fait passer qu'ils ont commencé de blanchir. Mais je ne t'en veux pas, je te pardonne, comme le crucifié a pardonné à ses bourreaux. Car moi aussi, je t'aime plus ardemment que tu n'as aimé tes souillures. Seulement, cet amour s'est élevé jusqu'à des régions si hautes, si sereines, que rien de ce qui lui arrachait autrefois des pleurs et des cris ne peut plus arriver jusqu'à lui. Comme un oiseau blessé qui se réfugie en plein ciel et qui, là, s'enivre d'air pur et de lumière, il monte, il plane. Merci, Seigneur, d'avoir donné à mon pauvre cœur meurtri l'apaisement, comme les saintes femmes ont versé le baume et la myrrhe sur la blessure saignante de vos pieds divins. 15 septembre. Je n'en puis plus douter, Jacques est l'amant de la comtesse. Ils s'affichent avec une impudence inconcevable. La malheureuse est venue me voir hier. Je l'ai traitée avec bonté, bien qu'elle affectât de me regarder, d'abord, d'un air de bravade. Sans doute, elle croit que je lui veux du mal. Je la plains seulement, pourvu que le mari, qu'on dit jaloux et violent, ne les surprenne pas, dans les bois où ils se rencontrent, comme des bêtes. 30 septembre. Et voici que, de nouveau, les feuilles jaunissent et commencent à tomber. J'ai fait rouler aujourd'hui la chaise longue, que je ne quitte plus guère, sur le perron, afin de me mettre un peu en espalier au soleil, car j'avais froid, et aussi pour contempler mon parc, qui, en cette saison de l'année, a je ne sais quel charme très touchant de beauté mélancolique, compte aussi, paraît-il, certains visages humains, sur le front desquels la mort prochaine est écrite. J'étais là, jouissant de sentir le bon soleil réchauffer mes membres, lorsque Jacques, Blanche et Pierre, à cheval, ont débouché de l'allée qui mène aux écuries et sont venus prendre congé de moi avant de partir pour la promenade. Cette folle de Blanche, qui passe son temps à me câliner depuis que son cousin est ici, heureux symptôme dont se réjouit mon cœur, s'est laissé glisser à bas de sa jument et m'a mis sur les joues 3 ou 4 gros baisers en disant « Depuis quelque temps, maman, tu es trop jolie. Il faut que je t'embrasse encore. » Jacques a ajouté « Le fait est, ma chère Louise, que vous êtes aujourd'hui tout à fait en beauté. » J'ai souri sans répondre. Ah, s'il pouvait deviner à quoi je pensais lorsque j'ai souri ainsi. Blanche s'est remise en selle. Je leur ai fait signe de la main en disant « Adieu, mes enfants. » Puis j'ai laissé retomber ma tête en arrière. J'ai fermé les yeux pour retenir de grosses larmes qui venaient soudain de gonfler mes paupières et j'ai murmuré les mots de la passion « Tout est consommé ». J'ai vaincu, je le sens. La femme amoureuse et jalouse est morte en moi. Je ne suis plus, je ne veux plus être qu'une mère. Mais que ces victoires-là coûtent cher, grand Dieu, comme elles épuisent. Tandis que j'attends le retour, en écrivant ces lignes sur mon journal, ce journal que Jacques lira un jour, je le veux, quand je ne serai plus de ce monde, je me prends à songer, avec une surprenante netteté de souvenir, à un tableau que j'ai vu ce printemps au salon. Il représentait une femme étendue sur son lit, comme je le suis moi-même sur ma chaise longue, le haut du corps soutenu par plusieurs oreillers. Un prêtre sortait de la chambre. Près du lit, des parents, des enfants pleuraient, agenouillés. La mourante faisait de la main un geste de bénédiction qui ressemblait étrangement au signe d'adieu que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi ne puis-je plus détacher ma pensée de cette toile ? Serait-ce encore un présage ? Comme l'hirondelle ?